Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
After Galaxy saison 2, merci d'être avec nous. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas rater les prochains épisodes, bien entendu, quel que soit votre appel. N'oubliez pas de liker, de lâcher vos commentaires, vos suggestions. Il y a quelques jours, le podcast Galaxy nous analysait le Benfica, adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Cette semaine, on reste en mode Champions League. On s'intéresse à l'autre confrontation franco-portugaise dans la compétition, Marseille Sporting. Pour nous aider à disséquer les Lions, il anime le compte Twitter Sporting CP France, @fr_sportingcp pour être très précis. Il le fait avec brio, il est fan du Sporting et il est spécialiste même des Lions. Nuno, salut Nuno, merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour, merci de l'invitation.
Il a passé 8 saisons au Portugal, de Leiria à Coimbra, en passant par Setúbal, Moreira de Cónegos, l'Académica. Il est passé par l'OM en 2012-2013. Il est aussi un Lion, mais de la Teranga. Modou Sougou, salut Modou, merci d'être avec nous.
Salut Nico, merci pour l'invitation aussi.
Bah non, merci à toi d'être là. Alors toi, tu as mis un terme à ta carrière il y a 2 ans. Je sais que tu passes tes diplômes d'entraîneur, que tu coaches en ce moment les jeunes attaquants de l'Amiens. Damien, c'est ça, Amiens, l'Amiens SC?
Oui, c'est ça, oui.
Ça se passe bien?
Là, j'ai... Oui, ça se passe bien. Là, j'ai, comme tu as dit, j'ai arrêté ma carrière, ça fait 2 ans, et j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur au Portugal. Et là, j'ai premier poste ici à Amiens SC, dans le centre de formation. Donc ici à Amiens, je suis responsable du secteur offensif, c'est-à-dire que je prends en charge les attaquants et j'organise des sessions spécifiques aussi pour les attaquants.
Alors tu m'étonnes que tu as envie d'être entraîneur, parce que tu as eu Villas-Boas, Domingos, Carlos Carvalhal, Norton de Matos, Vitor Oliver, qui est le recordman mondial de montée en première division, Inacio, champion avec le Sporting, Vitor Punch, que Mourinho avait annoncé comme son héritier à Leiria. Tu as eu des mecs qui, je pense, t'ont marqué. Il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, d'ailleurs, ou pas?
Moi, bon, j'ai eu plein d'entraîneurs, hein, et je peux dire que beaucoup d'entraîneurs m'ont marqué. Mais si je devais en tirer un ou deux, bon, je vais dire que Villas-Boas. Je vais dire Villas-Boas parce que c'est lui qui m'a donné l'envie même de penser à ça, de me dire que pourquoi pas un jour devenir entraîneur, quoi. Mais après, il y a d'autres aussi qui m'ont apporté d'autres choses aussi, comme Domingos aussi, mais ça m'a permis aussi de travailler avec lui, m'a permis de progresser sur le point intrinsèque, sur mes qualités devant le but.
Allez, on plonge dans ce Marseille Sporting. Jusqu'à mardi, l'OM cherchait sa première victoire, son premier but même, en Ligue des Champions cette saison. Le Sporting, lui, réalisait un sans-faute dans la compète, mais il y avait dans ce match comme une part d'irrationnel.
Trincao qui va se mettre en position de frappe. Elle est partie, 50 secondes de jeu. Et Trincao refroidit encore un peu plus l'atmosphère, si c'était possible. Oh, et Alexis, et ça marche. Et le but de l'OM, le premier but de l'OM dans cette campagne 21-22.
Bon, il est bon. Allez, la tête à Minarit.
La tête à Minarit. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. 16e minute. L'OM mène maintenant 2-1. Les 3 minutes renversantes de l'Olympique de Marseille.
Il y aura carton rouge. Il a touché le ballon de la main. Il a touché le ballon de la main, le gardien du Sporting.
Et, voilà. Et oui.
Ah, il nous a tout fait, ce gardien,
Adam,
ce soir.
Catastrophe.
Marie, c'est rentrant. Allez, c'est bien.
Oui, et magnifique. Magnifique, même Balerdi s'y met. Et l'OM mène 3-1.
Allez.
Et peut-être le quatrième. Et le quatrième de Chancel Bemba.
4-1 donc pour l'OM face au Sporting, et l'OM qui était pourtant mené. Nuno, qu'est-ce que tu retiens de cette défaite de ton Sporting?
Alors, ce que je retiens, c'est les boulettes, surtout, forcément, de Adan, qui normalement est un très très bon gardien, qui a beaucoup d'expérience, mais là, ça nous coûte réellement le match. Sa sortie de la surface avec les mains sur le ballon, enfin, c'est lunaire, il nous a vraiment jamais fait ça. Il nous coûte également le premier et le deuxième but. Le premier, un dégagement contré par Alexis Sanchez. Le deuxième, il est extrêmement mal placé. Il est même pas au milieu du but. Il est même pas sur le côté de l'action, sur le but de la tête. Après, on est réduit à 10, donc c'est très compliqué après de revenir. Edouard sort. Donc, ce que je retiens, c'est une défaite très douloureuse, mais qui, je pense et j'espère, ne va pas laisser de traces.
Moudou, est-ce que tu es surpris par le résultat? C'est vrai qu'on le disait, hein, l'OM courait après cette fameuse victoire en Ligue des Champions, un match référence. Est-ce que pour toi d'ailleurs c'est vraiment un match référence pour l'OM? Parce qu'il y a effectivement ce fait de jeu que beaucoup soulignent, Dadan, c'est fait de jeu même.
Oui, moi je pense que le carton rouge aussi a changé la physionomie du match. Ok, le Sporting est bien entré dans le match, mais Marseille est revenu. Mais le problème est que Adan ne s'est pas remis de l'erreur qu'il avait faite sur le premier but, sur l'égalisation de Marseille. Mais le score ne reflète pas la valeur des deux équipes. Moi, je pense que c'est deux bonnes équipes, mais à valeur égale, ils sont similaires, quoi. C'est pour cela que moi, je me disais que ça pouvait pencher d'un côté à l'autre, mais pas sur ce score.
Et dans ce podcast, hein, on va tenter d'analyser le Sporting, tenter une analogie avec l'Olympique de Marseille dans leur politique, leur modèle, mais aussi leur histoire. Car si l'OM a sa Coupe d'Europe, la Ligue des Champions 93, bien sûr, le Sporting aussi a la sienne.
La balle va partir, partiu, com boa conta, brava linda, gol, gol, gol do Sporting.
Eagle de Muraïs, le 15 mai 1964, le Sporting remportait la Coupe des Coupes face au MTK Budapest. Alors Nuno, c'est une finale qui est remplie d'histoire, hein, histoire avec un S, hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors il y a eu 3-3 lors de cette finale, c'était en Belgique. Le faute de vainqueur, en fait, après prolongation, à l'époque, ça se jouait donc sur un deuxième match. Donc la deuxième finale s'est aussi jouée du côté d'Anvers. Et là, on s'est imposé 1-0 avec le but de Moulay sur corner direct. À noter également que le coach était
Anselmo Fernandez,
ouais. Tout à fait, qui était l'architecte du stade.
Ah, ça, c'est fou. Donc, c'est-à-dire qu'il était entraîneur et architecte,
oui,
le mec, et il a dessiné le stade du Sporting, finalement, à Alvalade, quoi.
Tout à fait.
Ouais, ça, c'est assez fou. D'ailleurs, Anselmo Fernandez, hein, pour la petite histoire, hein, pour votre culture, qui est devenu le premier entraîneur portugais à remporter une Coupe d'Europe également. Alors, c'est vrai, Sougou, souvent, les observateurs qui suivent le foot portugais d'un peu plus loin, ils ont tendance à citer le FC Porto et le Benfica pour leur histoire européenne. Mais le Sporting aussi est un club avec une tradition européenne. Hein, peut-être que certains l'ignorent en France, mais c'est un club avec une vraie tradition, hein, Moudon.
Bien sûr, c'est un club historique aussi. Et au Portugal, quand tu parles de football, il y a trois équipes qui se dégagent. Porto, Benfica, Sporting. Maintenant, il y a Braga qui commence à venir, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore au même niveau des trois. Mais concernant ces trois, après, il y a une hiérarchie. Il y a Porto, Benfica qui sont un peu au-dessus de Sporting. Et pour moi, le problème du Sporting, c'est ça, quoi. Il y a la compétition nationale et ça l'affecte aussi sur ces compétitions internationales aussi.
Alors le Sporting a remporté une C2 en 64, mais là on parle de Ligue des Champions. En C1, la meilleure perf du Sporting, c'est un quart de finale perdu face à la Real Sociedad, c'était en 83. Et depuis que la C1 s'appelle Ligue des Champions, le Sporting compte 10 présences en phase de groupe. Il y en a eu 11 pour l'OM, donc c'est assez similaire. Et le Sporting n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à deux reprises, dont la saison dernière. Sougou, il manque quoi au Sporting pour aller au-delà de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions?
Moi, je pense que d'abord, Sporting doit régler le problème national, son problème national. Sinon, Porto et Benfica. Parce que pour le Sporting, pour faire quelque chose au niveau international, il faut qu'il soit régulier dans son pays, au Portugal. Il faut que Sporting gagne souvent le championnat, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné le championnat. Et là, ils reviennent et je pense qu'ils ont besoin de temps. Et s'ils règlent le problème national, je pense que ça va impacter sur le continent, avec les Coupes d'Europe. Parce que c'est difficile aussi la compétition au Portugal, et là pour exister en Europe il faut que Sporting domine le football au Portugal.
Alors l'OM est à jamais le premier, hein, et le seul club français à avoir remporté la C1. Au Portugal, le Benfica, le FC Porto l'ont déjà remporté à deux reprises. Est-ce que Nuno, quand on est supporter du Sporting, il y a une forme de complexe vis-à-vis de ça, vis-à-vis justement des deux rivaux que sont Porto et Benfica et de leur palmarès en Ligue des Champions?
Alors, complexe, je dirais, en tant que supporter, oui, forcément, puisque quand on parle de Porto, ils ont deux Ligues des Champions, deux Europa League. Benfica ont deux Ligues des Champions également, donc on fait plusieurs finales d'ailleurs aussi, perdues. Nous, on a la Coupe donc dans les années 60, on a la finale perdue de Coupe de l'UEFA en 2005 contre le CSKA.
Alvalade en plus, hein.
Tout à fait. Match où j'étais présent d'ailleurs ce soir-là.
C'est ta faute alors.
c'était voilà, il y a forcément un complexe au niveau européen, au niveau national également, puisque on est très loin des titres de Porto et de Benfica, surtout dans les années 2000, ça s'est accentué d'une manière assez fulgurante. Mais sinon, je pense quand même qu'on revient un petit peu à la base de ce qu'est notre ADN depuis 30 ans, c'est-à-dire la formation, et je pense que ça peut aider dans les années à venir.
Alors, quand on regarde l'historique européen de Marseille du Sporting depuis 20 ans, il y a des similitudes qui sont quand même assez troublantes. Depuis 20 ans donc, Marseille compte 9 présences en Ligue des Champions. Ils sont allés au-delà deux fois de la phase de groupe. Le Sporting compte 8 présences, donc une de moins que l'OM seulement. Ils sont eux aussi allés au-delà de la phase de groupe à deux reprises. Et en C3, l'OM c'est 11 présences et deux finales. Le Sporting c'est 14 présences et une finale de C3, celle que tu viens d'évoquer, Nuno. Est-ce que, Sougou, tu vois des niveaux performance européenne, tu vois des similitudes, une analogie entre le Sporting et Marseille justement, sur les dernières années, les deux dernières décennies?
Oui, je pense qu'il y a une similitude parce que ces deux équipes, avant les années 2000, étaient plus régulières sur le plan continental au niveau des Coupes d'Europe. Mais maintenant, après, dans les années 2000 jusqu'à maintenant, là, on note une régularité des deux. Après, ça s'explique aussi le problème qu'ils ont au niveau national. Parce que moi, à chaque fois, c'est ce problème qui revient. Comment dominer le football local et après s'exporter avec les Coupes d'Europe. Je pense que là, ils commencent à se refaire. Parce que Marseille, ça fait un moment, sur le côté, il y a des performances au niveau national, et je pense que ça a l'impact aussi quoi, sur les Coupes d'Europe. Moi, je pense qu'il faut être présent le plus souvent, c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience européenne aussi. Ce n'est pas seulement le club, c'est les joueurs aussi. Quoi.
Ouais. Nuno, toi, en tant que supporter du Sporting, quand tu vois les performances européennes de Marseille sur les Coupes d'Europe, hein, pas qu'en Ligue des Champions depuis 20 ans, est-ce que tu t'y retrouves un petit peu? Tu trouves qu'il y a des points communs? On le voit statistiquement, c'est le cas en tout cas.
Alors, statistiquement, oui, ça je suis totalement d'accord. Après, il y a aussi l'avènement de nouveaux clubs, entre guillemets, qui sont imposés sur la scène internationale, par exemple le PSG, Manchester City, tout ça, donc qui fait que la concurrence au niveau européen, c'est encore un degré au-dessus. Au Portugal, je suis totalement d'accord avec Sougou, c'est-à-dire que si on ne s'impose pas au niveau national, tu ne peux pas prétendre à aller loin en Ligue des Champions. Mis à part par exemple Benfica sur la saison dernière qui va en quart de finale. Sinon oui, il y a des similitudes entre les deux équipes. D'ailleurs je crois que la seule fois où on passe la phase de poule, c'est face, quand on perd face au Bayern il y a une dizaine d'années, où on se prend une sacrée claque, et sinon c'était la saison dernière. Donc il y a du travail. Je pense qu'avec la formation, on peut s'améliorer. Il y a des similitudes entre les deux clubs, même si on n'a pas la même vision à long terme.
Alors, on va y revenir hein, sur ces histoires de vision également et aussi sur les performances nationales. Donc, si on résume, en Ligue des Champions, en 20 ans, le Sporting et l'OM sont allés au-delà de la phase de groupe qui a deux reprises. Deux clubs qui font plus vraiment peur hein, en C1. Marseille avait sa fameuse série de défaites. Écoutez le podcast After Marseille avec Loïc Moreau et Romain Canouti. Le Sporting poursuit sa lente reconstruction. La réaction de Ruben Amorim après le tirage au sort en août dernier en disait long.
A verdade é que toda a gente olhou para o pote 3 e de certeza absoluta toda a gente queria o Sporting. Vamos ver se é assim no fim da fase de grupos.
Et la vérité, c'est que tout le monde a regardé le chapeau 3 et je suis sûr et certain que tout le monde voulait tirer le Sporting. Mais on verra à la fin de la phase de groupe de Ligue des Champions. Nuno, je sais que tu as été assez vexé par certaines réactions, commentaires, notamment en France, après le tirage au sort justement de cette Ligue des Champions.
Alors oui, même très vexé. On a un petit peu minimiser un petit peu l'équipe du Sporting, le club que c'est. Au niveau national, on est un très très grand club, même si on reste en dessous de Benfica et de Porto. Au niveau européen, on a un petit peu l'impression, nous en tant que supporters du Sporting, qu'on ne nous respecte pas assez par rapport au respect qu'on a par exemple au Portugal. On est quand même 8e de finaliste de la saison dernière, on élimine Dortmund, on bat Besiktas aller-retour, donc je pense que voilà, on aurait mérité un peu plus de respect vis-à-vis du tirage au sort, sachant que c'est un groupe très abordable pour tout le monde, que ce soit Francfort, l'OM, nous, et j'ai oublié le
Tottenham.
Quatrième et Tottenham. Donc voilà, j'étais un petit peu vexé par les commentaires de certains journalistes, en effet.
Sougou, pour toi, le petit de ce groupe, justement, OM, Sporting, Eintracht, Tottenham, c'était qui au moment du tirage?
Pour moi, quand je regarde le groupe, pour moi, il n'y a pas une petite équipe. Parce que c'est un groupe homogène, équilibré. Parce que les résultats nous prouvent ça. Tout le monde Pour battre n'importe qui et n'importe où. Parce que jouer à l'extérieur ou à domicile importe peu avec ces quatre équipes. Par exemple, Sporting peut aller battre Francfort, Francfort venir battre Marseille, Marseille aller battre... vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un groupe équilibré où il n'y a pas de petite équipe. Là, on ne peut pas faire... on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer. N'importe qui peut se qualifier. C'est un groupe ouvert. Et les résultats, dernier match, le prouvent. Et c'est équilibré pour moi. Il n'y a pas de petites équipes.
Nuno, c'est quoi l'objectif d'un Sporting en Ligue des Champions, surtout au regard de ce qu'on vient de dire, là, finalement, de leur prestation depuis 20 ans en Champions?
L'objectif du Sporting, c'est très simple. Au niveau de cette saison, en tout cas, la saison dernière, bon, on a un petit peu créé la surprise en phase de poule, donc on est passé en huitième. Bon, on a eu Manchester City, c'était beaucoup plus compliqué. Cette saison, moi, je dirais... au minimum une troisième place qui nous qualifierait du coup en Ligue Europa. Je pense que ce serait déjà un très bon résultat. Et un passage en huitième, ce serait comme la saison dernière, que du bonus.
Alors Ruben Amorim, lui, avait expliqué il y a un an, au moment de sa prolongation de contrat, l'objectif du Sporting vis-à-vis de la Ligue des Champions.
Este projeto a longo prazo precisa de dinheiro,
ce projet a besoin d'argent sur le long terme. Il nous faut une base de joueurs, valoriser les joueurs. Il faut avoir la capacité de lancer des jeunes et de les garder plus longtemps. Tout ça entraîne un effet boule de neige, sachant que la Ligue des Champions est une vitrine qui fait entrer de l'argent de façon directe et à travers les sponsors. C'est très important pour nous d'en être. C'est un objectif qui nous a été fixé lorsque nous sommes arrivés ici.
Voilà, on va développer le volet économique plus en profondeur dans quelques instants. Mais si on compare la posture du Sporting à celle de l'OM vis-à-vis de l'Europe, il y a un autre point commun. Il y a un an, voilà comment Pablo Longoria délimitait les objectifs des Phocéens en Ligue des Champions.
Il faut se dire les choses, que l'argent du football, c'est vraiment dans la Champions League et tout ça que ça génère autour d'un club. Et ça, c'est le facteur multiplicateur du potentiel économique d'un club. Notre objectif, c'est toujours de qualifier au podium.
Alors, ce qui est très intéressant quand on écoute et Amorim et Pablo Longoria, c'est qu'au final, à l'OM comme au Sporting, il n'y a pas d'objectif sportif précis d'afficher. En revanche, on parle beaucoup d'argent. Moudou, OK, on va aller en Ligue des Champions, mais c'est quoi ensuite? Qu'est-ce qu'on veut faire sportivement?
Sportivement, on dépend d'une chose, le volet économique. Parce que d'abord, si on veut former des joueurs, il faut aussi montrer ces joueurs. Et où tu veux montrer ces joueurs? C'est seulement avec la Champions League que tu peux montrer tes joueurs. Maintenant, le challenge pour ces équipes, c'est combien de temps ils vont garder ces joueurs. Parce que pour avoir aussi une existence sportive, il faut aussi que tu gardes tes joueurs. Comme ça, tu travailles dans la durée. Et après, si le club peut avoir le luxe de décider quand est-ce qu'ils vendent ces joueurs, là, je peux dire qu'ils ont réussi. Mais tout ce qu'ils font, il dépend du volet économique. Et pour cela, il y a la Champions League qui rentre en compte.
Alors, on l'a entendu dans la voix de Pablo Longoria, mais Amorim dit aussi la même chose, Nuno. Les dotations liées aux Coupes d'Europe et notamment à la Ligue des Champions sont très importantes, surtout pour les clubs portugais où les budgets sont moindres hein, par rapport à la France, hein, et notamment à l'OM, par exemple.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le budget du Sporting doit tourner aux alentours de entre 80 et 100 millions d'euros. Je pense que l'OM est largement au-dessus de ça, même si on n'a pas le même taux d'imposition dans les deux pays. À noter, par exemple, qu'en droit TV au Portugal, le cinquième ou le sixième touche dans les 7-8 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une compétition à armes égales, entre guillemets, entre les deux championnats. Donc, forcément, être qualifié en Ligue des Champions, juste le fait d'y être, ça donne une sacrée bouffée d'air frais.
Alors, on va revenir dans quelques instants sur la dimension économique du Sporting et de l'OM. Mais avant, revenons au volet sportif. On s'est comparé les résultats de l'OM et du Sporting depuis 20 ans et on a constaté qu'il y avait des points communs. Qu'en est-il au niveau national?
Tempo que deu, Paulinho, acabou! O Sporting é campeão novamente! Os avós e os pais contaram como foi em 2002. E hoje, os netos e os filhos podem festejar 19 anos depois, o Sporting volta ao título.
Les parents et grands-parents ont raconté comment c'était en 2002. Les enfants et aujourd'hui petits-enfants peuvent fêter à leur tour le titre, narre le commentateur de Radio Observador, parce qu'en mai 2021, après près de 20 piges d'attente, les Lions redevenaient champions du Portugal. Alors, Sougou, t'en parlais, tu l'évoquais, tu le touchais du doigt tout à l'heure. Le dernier titre de champion de l'OM en L1 remonte à 2010. Est-ce que l'OM est en train de nous faire une Sporting, là?
Ben, je ne sais pas, parce que tu ne peux pas comparer l'OM et le Sporting sur ce côté. Parce qu'en France, il y a un paramètre qu'on ne peut pas négliger, la présence du PSG actuel. Ça, pour moi, ça fausse la donne sur le plan national. Parce que là où Marseille doit se concentrer, c'est d'être tout le temps sur le podium. Premier, deuxième, troisième, au minimum, d'être sur le podium. S'il arrive à faire ça, je pense que Marseille a réussi. Ça dénote une qualification de la Champions League, c'est ce que Marseille veut. Après, c'est aléatoire de dire que quand est-ce que Marseille peut gagner le championnat. Mais on ne sait jamais, parce que Montpellier a gagné le championnat devant Lille aussi a gagné le championnat devant le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas Marseille ? Mais c'est difficile avec la présence du PSG.
Alors, sans parler forcément de la Ligue 1, hein, ça fait 10 ans que l'OM n'a pas remporté un trophée, c'était une Coupe de la Ligue. 10 ans sans titre, il y a la Ligue 1, mais il y a les coupes aussi, Modou. C'est long, 10 ans sans titre pour un club comme l'OM ?
Oui, bien sûr, c'est long. Mais comme je t'ai dit, le volet économique, c'est la présence en Champions League. Et la présence en Champions League, c'est il faut être tout le temps sur le podium.
Ouais.
Comme ça, Marseille a les chances de se qualifier. Après les coupes, ça dépend comment l'équipe progresse. Parce que ces genres d'équipes, ils n'ont pas un effectif pléthorique pour jouer sur beaucoup de tableaux. Ils vont choisir les compétitions. Et si le choix à faire, c'est la Champions League. Après les coupes, d'habitude, ils tournent. C'est les jeunes qui vont jouer ou le banc qui joue les coupes. Après, on ne sait jamais. Ces genres d'équipes commencent à jouer la coupe à partir des quarts de finale, qu'ils vont commencer à être sérieux.
Alors tu l'as dit, hein, c'est difficile hein, de comparer la L1 à la Liga portugaise, hein, deux réalités totalement différentes. Mais il n'y a pas photo niveau interne, niveau résultat, le Sporting s'en sort mieux. L'OM n'a plus remporté titre, je le disais, depuis 10 ans, une Coupe de la Ligue en 2012. Dans le même temps, les Lions ont gagné 8 trophées. Alors cela dit, Nuno, sur les 10 dernières années, classement moyen du Sporting en Liga, c'est 3e. Le Sporting aussi a longtemps été dans l'ombre du Benfica et du FC Porto. Hein.
Oui. Après, comme je disais au tout début, Porto et Benfica, ils ont énormément gagné de titres nationaux, surtout le championnat, depuis les 20 dernières années. À noter d'ailleurs que le dernier à l'avoir remporté hors des trois grands, c'était Boavista, déjà dans les années, au tout début des années 2000, il me semble, 2001.
Ouais.
Sinon, ça se partage entre Porto et Benfica jusqu'à il y a 2 ans, à peu près. Donc nous, le Sporting essayait de grappiller quelques coupes, donc on a gagné quelques coupes de la Ligue, quelques coupes du Portugal, quelques super coupes également. On a fait beaucoup de deuxième place, de troisième place, mais on a également été dans les 6, 7, 8e place. Donc Porto et Benfica, ils ont beaucoup mieux travaillé sur les 20 dernières années, là où nous, on a délaissé un petit peu la formation justement, on a un petit peu commencé à acheter à droite à gauche et qui n'a pas bien fonctionné, et du coup forcément, ça s'est ressenti dans les résultats.
Alors impossible d'évoquer hein, le retour au premier plan du Sporting sans s'arrêter sur l'un de ses grands artisans, son entraîneur, Ruben Amorim.
Nem sempre se vê só a grandeza estando cá dentro. Eu fui adversário do Sporting toda a minha vida, e é possível, sendo adversário do Sporting, muitas vezes, perceber a grandeza do clube, perceber como é que se olha para este clube.
Voilà, en mars 2020, Ruben Amorim était nommé entraîneur du Sporting. Lui, qui a longtemps été joueur, supporter, sociaux du Benfica, déclarait alors au sujet des Lions, « Il n'y a pas que ceux qui sont à l'intérieur du club qui réalisent sa grandeur. J'ai été adversaire du Sporting toute ma vie et il est possible en tant qu'adversaire du Sporting de se rendre compte de la grandeur du club, de comprendre comment on regarde ce club. » Alors Nuno, c'est vrai qu'au-delà de son étiquette de benfiquiste, le pari d'Amorim était très osé de la part du président Varandas. Hein.
Très très osé même. Il a été recruté quand même pour 10 millions d'euros. C'était sa clause à l'époque de Braga. Bon, il y a eu des petits intérêts qui sont rajoutés parce que on n'a pas payé dans les temps. Le club n'a pas payé dans les temps. C'est un des entraîneurs les plus chers de l'histoire. Hein. Même à l'époque, quand il a été recruté, il me semble que c'était même le deuxième derrière Villas-Boas quand il va à Chelsea. Il a beaucoup été critiqué, Varandas. Il a énormément été critiqué au terme de ce recrutement de coach, puisque forcément, le prix n'était pas en adéquation par rapport à la situation qu'on vivait en interne au niveau du club. Et beaucoup de dettes, il y en a encore énormément. Le recrutement n'était pas folichon au niveau des joueurs. Et du coup, là, on dépense 10 millions d'euros sur un coach et tout le monde était bouche bée devant ce recrutement. Mine de rien.
Surtout qu'à l'époque, il a 35 ans, il a dirigé oui. 13 matchs en Liga avec Braga, enfin, il n'a même pas les diplômes à l'époque, c'est fou quand même.
Oui, il a joué la première saison sans ses diplômes, il les a passés en cours de saison, je crois qu'il les a eu juste avant le titre, et au final, il prend l'équipe 4e, il me semble, la première saison, il finit la saison, donc on rattrape Braga, et la saison d'après, c'était l'année Covid. sans supporters, on finit champion et je trouve que c'était largement mérité. Mais si on fait le bilan au bout de 2 ans, on a quand même 2 coupes de la Ligue, une Super Coupe du Portugal, on revient en Ligue des Champions, on a le titre de champion du Portugal également, donc c'est énorme l'impact qu'il a eu en si peu de temps.
Alors, il a 37 ans aujourd'hui, Ruben Amorim. Sougou, comment tu le définirais, lui qui a été annoncé au PSG par exemple l'été dernier, il est souvent annoncé partant, Ruben Amorim?
Moi, j'ai eu la chance de jouer contre lui quand il a joué à Benfica et à Belenense, tu vois. C'était un bon joueur au milieu de terrain, mais ça a été noté qu'il était très intelligent dans le jeu. Et je pense que ça l'a poussé aussi à devenir entraîneur. Mais aussi le fait de collaborer aussi avec Jorge Jesus, moi, ça c'est mon avis personnel. Je pense que il a subi une influence aussi de Jorge Jesus. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est son côté formateur, parce que d'habitude c'est les entraîneurs d'expérience qui ont ce côté. Mais lui, très tôt, on a souligné qu'il a été formateur, parce que vous avez vu les joueurs qu'il a sortis et les joueurs qui ont évolué, progressé. Avec lui, moi, je suis agréablement surpris de tout ce qu'il fait. Mais il est très intelligent.
Alors, les clubs portugais sont souvent des tremplins pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs. Il y a eu Jardim, Marco Silva sur les dernières années, rien qu'au Sporting. Je le disais il y a quelques instants, il a été annoncé au PSG en Première Ligue, en Bundesliga. Nuno, est-ce que tu es déjà frustré à l'idée de perdre Ruben Amorim?
Très même. Quand il y a eu les rumeurs cet été... C'était assez compliqué. Bon, les rumeurs PSG, moi, j'y croyais pas énormément. Après, il y a eu des rumeurs quand même en Première Ligue, du côté de Wolverhampton, tout ça. C'était assez compliqué. Je pense que dans tous les cas, on va pas pouvoir le conserver très, très longtemps. Ce sera pas le coach qui va rester ici 10 ans, surtout s'il continue sur cette lancée-là. Imaginons si en fin de saison, bon, là, c'est un petit peu compliqué en championnat, mais si en fin de saison, il nous remet en Ligue des Champions, si cette année, on refait un 8e de finale, je pense que ça va être très compliqué de le garder au-delà de cette saison. On en a perdu déjà d'excellents coachs, avec Léo Jardim qui est allé à Monaco, avec Marco Silva qui est allé en Angleterre. Il y en a eu énormément, il y a beaucoup de talent. Il est très jeune et je pense qu'il va faire une très très grande carrière, honnêtement.
Alors côté entraîneur, là aussi, si on compare le Sporting à l'OM, les chiffres sont assez troublants, c'est assez dingue. Il y a eu 5 changements d'entraîneur sur les 5 dernières années des deux côtés, 12 changements d'entraîneur sur les 10 dernières années de part et d'autre, c'est-à-dire exactement le même nombre, hein. Et sur les 20 dernières années, 18 changements d'entraîneur à l'OM, 19 au Sporting. Alors faut dire qu'avant Amorim, Nuno, il y a eu une période très très instable, hein, chez les Lions, hein.
Tout à fait. C'était un petit peu la dégringolade. C'est quand on a arrêté un petit peu de former nos joueurs et on les laissait partir très très jeunes. Ils étaient même quasi pas titulaires au club qui partaient déjà à l'étranger. Et du coup, c'était un petit peu la valse d'entraîneurs. On a eu José Pesel, on a eu Thiago Fernandes, il y a eu Marcel Kaiser qui était un excellent coach, qui a fait un excellent démarrage et au final, il s'est complètement vautré juste après. On a eu Silas, l'ancien joueur de Sporting également. Lionel Ponch qui était déjà dans la formation, qui est parti également. Il y a eu beaucoup de turnover là-dedans, mais c'était dû également à la mauvaise gérance au niveau de la présidence du club, selon moi.
Il y a même eu Mihajlovic qui n'a même pas eu le temps d'entraîner avant de repartir. Ça a été une histoire qui a fini au tribunal, d'ailleurs, qui n'est toujours pas réglée. Il va falloir lui filer un chèque-os. Comment t'expliques, toi, cette similitude concernant les changements réguliers d'entraîneurs entre l'OM et le Sporting? C'est fou, quand même. Ils ont mangé le même nombre d'entraîneurs sur la même période.
Moi, je pense que c'est des clubs où on te donne pas, ils laissent pas beaucoup de temps au coach de travail. C'est des clubs où, quand tu viens, tu dois gagner aussitôt. Mais parfois, selon comment changent les politiques, tu as besoin de temps. Et le temps, ils ne te le donnent pas. Pour moi, la plupart du temps, c'est ça le problème. Mais au Sporting, moi, ce que je regarde par rapport à Sporting, dans les dernières années, c'est seulement Paulo Bento qui a eu un peu plus de stabilité. Mais je pensais que Marseille allait l'avoir avec Villas-Boas, parce que je pensais que les deux collaient bien. Mais malheureusement, il est parti plus tôt que prévu. Mais bon, c'est des clubs qui ont besoin de stabilité. Et là, je pense que Sporting l'a déjà trouvé avec Amorí. Maintenant, le challenge est combien de temps ils vont le garder et combien de temps aussi Amorí va vouloir rester à Sporting. Après, maintenant, Marseille, ils ont ouvert une nouvelle chose avec Tudor. Maintenant, il faut voir là où ça va leur monnaie.
On va continuer d'analyser, de comparer l'OM et le Sporting, leur politique, place à la problématique liée à la formation. Souvenez-vous de ce que Pablo Longoria a déclaré lors de sa longue conférence de presse à l'issue du dernier mercato.
On a un très grand problème à l'OM. On n'a pas des joueurs qui viennent du centre de formation. Ça, c'est un grand problème. Il faut réfléchir sur ça. Pour ça qu'on prend des décisions, parce que notre ambition, c'est d'avoir un homme haut dans le futur, des joueurs qui viennent du centre de formation et s'installent dans l'équipe première. Pour équilibre économique, pour remettre les sens d'appartenance, que c'est important. Si on donne une bonne mentalité dans les centres de formation, pour avoir cette mentalité que tu prends depuis que tu es petit et tu portes à l'équipe première, c'est la culture du club. Aussi, c'est un sens d'identification avec nos supporters. Avoir des joueurs des centres de formation, c'est très important.
Voilà, la formation, c'est un thème qui fait débat à Marseille depuis des années. Alors, Sougou, toi qui connais l'OM de l'intérieur, comment expliques-tu ce souci lié à la formation? Pourquoi l'OM ne compte-t-il pas de joueurs formés au club au sein de son équipe première?
Moi, je pense que la formation, c'est un volet hypersensible. Là, c'est quelque chose que je viens de découvrir, surtout ici à Amiens. Mais je peux vous dire que Marseille a énormément de difficultés avec la formation. Parce que d'abord, il trouve des jeunes, mais il a des problèmes pour garder ses joueurs. Moi, je ne m'explique pas, mais je pense que le plus gros problème de Marseille, ça vient de là. Les joueurs que tu formes, comment tu vas les garder? Ils partent un peu plus tôt que prévu. Moi, je pense que le plus grand problème de Marseille, c'est ça.
Si on compare, Nuno, juste pour faire un fact-checking, si on compare avec le Sporting, il y a combien de joueurs formés au club au sein de l'équipe première cette saison, par exemple?
Il y en a énormément. Il y a Gonçalo Inácio, il y a Esgaio, il y a Rodrigo Ribeiro. En plus de ceux qui sont là, mais qui alternent entre la formation et l'équipe première, il y a Jovan, Essugo, Bragança, Nazinho. Il y a énormément de joueurs qui sont formés au club, qui montent en ce moment depuis 2 ans, depuis Ruben Amorim. Et ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Je prie pour que ça continue. Il y en a énormément et il y a énormément de talent, même pour ceux qui ne sont pas encore dans l'équipe première.
Et alors, l'OM a pris 6-0 par le Sporting en Youth League il y a quelques jours. Ça peut en dire long, hein, sur l'écart qu'il y a entre les deux clubs niveau formation. L'Académie du Sporting qui a célébré ses 20 ans cet été. Sougou, je sais que tu as fait un tour il y a quelques semaines au sein de l'Académie du Sporting. Si tu devais comparer le centre d'Al-Kouchiat aux installations de l'OM, tu dirais quoi?
Moi, je dirais que Sporting a déjà connu sa formule. Mais Marseille cherche sa formule. Parce que Sporting a déjà fait des preuves. Et là, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Là-bas, ils savent comment faire pour produire tel type de joueur. Et à Marseille, pour le moment, ils cherchent.
Mais niveau installation, il y a une vraie différence entre les deux, Sougou?
Pour se trouver. Oui, mais ce n'est pas seulement niveau installation. Moi, je pense que le niveau d'installation, ça importe peu. Parce que ils ont des moyens, ils vont faire des choses sur le côté installation. Mais moi, je parle de comment gérer le centre de formation, comment produire. C'est sur le côté de la production. C'est là où je note une différence. Parce que Sporting, comme ils ont des résultats sur le passé, regarde les grands joueurs qu'ils ont formés, qu'ils ont vendus. Là, ils savent comment faire. Mais Marseille, pour le moment, se cherche. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'hommes. Si tu regardes comment ça tourne, le centre de formation à Sporting et à Marseille, c'est différent. Ils changent beaucoup de personnes à Marseille qu'à Sporting. Comment c'est ça? Ils se cherchent.
Il y a pas mal d'indicateurs, hein, Nuno, hein, qui illustrent la qualité du Made in Sporting aussi, hein, au-delà des joueurs en équipe première.
Oui, tout à fait. On a formé énormément de joueurs dans les années précédentes. Bon, l'illustre cas de Cristiano Ronaldo et Luis Figo, tout le monde connaît. Sinon, il y a Nuno Mendes qui est parti au PSG, qui est formé chez nous. João Mario qui est à Benfica. Nani, Gelson Martins. Il y en a énormément. Le Sporting est le troisième club en Europe ayant formé le plus de joueurs évoluant dans l'une des 31 premières divisions des pays membres de l'UEFA. Il y a seulement l'Ajax et le Shakhtar Donetsk qui sont devant. Donc, juste cette petite stat, je trouve ça quand même révélateur du centre de formation que c'est. On forme énormément. Il y a une petite période où on a un petit moins formé, c'est-à-dire à peu près dans les années Euro 2016, quand on gagne l'Euro 2016. Là, on a un petit peu moins formé, dû aux problèmes également en interne qu'il y avait à ce moment-là. Mais sinon, oui, l'académie, je pense qu'elle est top 3, top 4 de mondial. Quoi.
Alors, il y avait une autre stat également, hein, c'est que justement cette fameuse finale de l'Euro 2016, 10 des 14 joueurs portugais qui ont disputé la finale étaient formés au Sporting, ça en dit long également. Et tu faisais référence, Sougou, il y a quelques instants, à la vente des joueurs. En 20 ans, rien que les joueurs formés à Al-Kouchiat au Sporting ont rapporté plus de 320 millions d'euros en vente. À titre de comparaison, le centre de l'OM, alors qui date des années 70, qui a été rafraîchi à diverses reprises, a rapporté 10 fois moins dans le même temps. Sougou, est-ce que tu penses que le Sporting, c'est l'exemple à suivre pour l'OM en termes de formation? Est-ce que c'est possible même, selon toi?
Ben, je ne sais pas, moi, ce que je me dis, c'est que ça dépend de la vision que l'équipe a. Par exemple, si tu te réfères au Sporting, eux, la plupart du temps, les joueurs qu'ils forment, quand ils vendent des joueurs, c'est à peu près c'est des attaquants ou des milieux excentrés, des ailiers. Parce que eux, leur vision est, quand ils prennent le joueur doit avoir telle qualité. Et à partir de là, ils font se baser sur ces qualités et après trouver des axes d'amélioration pour permettre aux joueurs d'aller vers le haut. Et à partir de là, ils vont le vendre. Parce que, par exemple, Sporting, s'ils mettent un joueur sur le marché, tout le monde va vouloir ce joueur parce que ça va être un joueur dribbleur. Et c'est ça que le football moderne demande. Eux, ils ont une vision bien précise de ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut savoir à Marseille qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Après, pour moi, c'est ça, c'est une question d'orientation. Si c'est un modèle aussi pour vendre, pourquoi pas ? Parce que comme c'est un modèle qui réussit, pourquoi pas se référer à ça ?
Et derrière tous ces chiffres, hein, se cache une autre question. Au-delà même de la formation, l'OM sait-il vendre ? Vend-il bien ? Question posée à Pablo Longoria il y a un mois de cela.
Quel est champion de vente ? Parce que je ne connais pas aucun championnat de vente. Ça, c'est la première question. Spécialement, la situation économique actuelle du club nous a permis de tenir notre meilleur joueur. Les joueurs avec les valeurs marchandes les plus importantes, on est en capacité maintenant de tenir tous ces joueurs et c'était un choix du club.
Alors Pablo Longoria qui explique qu'il a pu garder ses meilleurs joueurs, ceux ayant la valeur marchande la plus forte. Au Sporting, Nuno, c'est l'inverse. Hein. On a optimisé les plus grosses valeurs marchandes, on les a vendues cet été. Hein.
Tout à fait. On a Mateusz Nunes qui est parti à Wolverhampton pour 45 millions plus 5 en bonus. Qui se place directement, je crois, top 3 des plus grosses ventes du club. On a Palinha qui a été formé chez nous, Mateusz Nunes, il n'a pas été formé, mais Palinha, oui, qui est parti pour 20 plus 2 à Fulham. Et on a l'option d'achat de Nuno Mendes cet été qui a été levé également par le PSG. Donc, oui, il y a énormément de grosses ventes, énormément de ventes de joueurs formés. Et dans tous les cas, comme je l'ai dit avant, c'est ça qui fait partie de notre ADN, dans tous les cas.
Ouais, et d'ailleurs, à titre indicatif, hein, la plus grosse vente de l'histoire de l'OM, c'est Michy Batshuayi, 39 millions d'euros. Ce serait que la quatrième plus grosse vente de l'histoire du Sporting. Ça équivaudrait à la vente d'un Nuno Mendes. En revanche, la plus grosse vente de l'histoire du Sporting, c'est Bruno Fernandes, 63 millions d'euros. Vous voyez aussi le différentiel, hein, niveau savoir-vendre. Et d'ailleurs, si on compare les ventes réalisées par le Sporting et celles de l'OM depuis l'ère Macourte, c'est-à-dire depuis 2017, l'OM a dégagé pour plus de 200 millions d'euros de ventes de joueurs. Le Sporting dépasse les 500 millions, c'est-à-dire plus du double. Pour reprendre la question posée à Pablo Longoria, est-ce que tu dirais, Sougou, que l'OM vend mal ?
Ben, je ne sais pas si l'OM vend mal ou bien, mais moi, ce que je peux dire est que le plus gros problème de l'OM, c'est de garder ses joueurs. Par exemple, quand tu vois à Marseille, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir libres. C'est des joueurs qui ont une bonne valeur marchande. Moi, je pense que c'est ça qui n'est pas normal. Par exemple, un joueur comme Camara, tu as formé Camara, tu ne peux pas le convaincre à renouveler. Après, il part comme ça, libre. C'est là où le problème de l'OM existe. Parce que si tu gardes le joueur, il faut le garder le plus longtemps possible pour le valoriser et le vendre à temps. Mais si tu n'arrives pas à renouveler ces genres de joueurs, après, derrière, pour avoir quelque chose, ça va être compliqué.
Comment on explique, Nuno, ce savoir-faire en matière de vente des joueurs du Sporting, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les rivaux, hein, Porto et Benfica, hein.
Eh bien, tout simplement, la formation est de bonne qualité, entre guillemets. C'est-à-dire, quand vous êtes estampillé Made in Portugal ou Sporting, Benfica ou Porto, il y a très rarement des cas qui ne fonctionnent pas à l'étranger. Bon, Cristiano Ronaldo, on sait tous, ça a bien fonctionné. Bon, Jean-Mario, à l'inverse, ça l'a totalement, ça a vraiment pas marché du côté d'Inter. Les coachs s'exportent énormément ayant du succès. Et ensuite, on a le super agent Jorge Mendes qui manipule un petit peu tout ça, qui est un petit peu, on va dire, je sais pas, 90% du championnat portugais sous sa houlette. Donc forcément, nous, on dépend de ça. Sachant que nos droits TV ne sont pas aussi élevés qu'en France. Déjà qu'en France, je vois beaucoup de clubs qui se plaignent des droits TV. Au Portugal, c'est peut-être qu'ils représentent un dixième des droits TV français. Donc, on est obligé de vendre et les gros clubs sont obligés de vendre parce que dans tous les cas, on n'a pas les trois places tout le temps, constamment en Ligue des Champions, les trois premières places. Donc, du coup, tous les autres sont obligés de vendre, y compris le troisième, donc, que ce soit Porto, Benfica ou Sporting, on est obligé de vendre. Donc, ça se compense avec ça.
Alors, la politique sportive et économique d'un club s'analyse à travers ses ventes, mais aussi à travers ses achats. Pour Frederico Varandas, le président du Sporting, le mot-clé, c'est « sustentabilidade », la viabilité.
Nós não acreditamos que seja possível ter sucesso desportivo a médio e longo prazo sem sustentabilidade. Nós nunca vamos cair na tentação do populismo de ganhar amanhã, a curto prazo, podendo empetucar o futuro do clube.
Voilà, Varandas qui explique que le succès sportif à moyen et long terme ne se fait pas sans viabilité. Nous ne basculerons jamais dans la tentation du populisme, du gagner demain à court terme en hypothéquant l'avenir du club. Ça résume plutôt pas mal la fatalité qui frappe les clubs portugais, Nuno. Il faut vendre pour survivre, vivre pour et pas tout réinvestir sur le mercato, éponger les dettes aussi d'ailleurs, tu t'en parlais tout à l'heure.
C'est ça. La dette, elle a tendance à baisser justement ces dernières années un petit peu, même si la dette, entre guillemets, envers les fournisseurs a tendance à augmenter pour le coup. Le Sporting vend énormément et dépense très peu ces dernières années sur le marché. Si on regarde les chiffres, c'est vraiment à l'opposé. À l'inverse, comme Sougou l'a dit, les installations du club, pas plus tard que cet été, et il y a un projet de réaménagement qui a été fait. Et du coup, l'argent un petit peu des ventes sert aussi à remettre dans la formation, à améliorer les structures pour ensuite, dans les années à venir, continuer de former et continuer de vendre très cher.
Alors, comparons aussi les sommes investies par l'OM et le Sporting en achat de joueurs. Alors, on précise, le budget de l'OM représente quasiment le double de celui du Sporting, qui est un peu plus de 100 millions d'euros. Sous l'ère Marc Courte, l'Olympique de Marseille a investi 350 millions d'euros sur le mercato. Dans le même temps, le Sporting en a injecté 100 millions de moins. Tout à l'heure, on comparait les plus grosses ventes de l'histoire des deux clubs. On peut aussi constater que sur les plus grosses recrues de l'OM et du Sporting, il y a aussi un vrai différentiel, Nuno.
Tout à fait. Nous, la recrue la plus chère, c'est Paulinho. Recruté pour 16 millions plus bonus à Braga d'ailleurs, qui arrive six mois avant le titre de champion il y a 2 ans. Je pense que si on compare à l'OM, on doit être loin de la somme de leur plus grosse.
Ça équivaut au 6e plus gros achat de l'histoire de l'OM, Paulinho, les 16 millions.
Voilà. Ouais. Donc la deuxième, c'est Bas Dost qui avait énormément marqué. Et ensuite, si on compare le top 5, Le cinquième, c'est déjà Bruno Fernandes, acheté 9 millions d'euros et revendu 58 plus bonus. Donc il y a vraiment un grand écart à ce niveau-là.
Sougou, je vais te reposer la même question que tout à l'heure, mais je vais changer un verbe. Tout à l'heure, je te demandais si l'OM vendait mal. Est-ce que l'OM achète mal également, selon toi ?
Non, achète mal, non, je ne dirais pas. Je dirais même que l'OM achète bien, parce que avec les connexions que le président a, je pense qu'il a... ils font toujours de bonnes affaires avec des joueurs surtout libres, et je pense que sur ce côté l'OM achète bien avec la venue de Bailey, Bemba, et je pense que c'est des bonnes affaires aussi pour l'OM, et la plupart du temps ils récupèrent des joueurs qui sont en fin de contrat, et comme aussi quand tu vois Klaus, moi je pense que c'est une bonne affaire parce que tout le monde le voulait avec la saison qu'il a faite l'année dernière, et le faire venir à Marseille, je pense que c'est une bonne chose. Et quand tu vois aussi un joueur comme Alexis Sanchez, ça, il faut le faire. Hein. Je pense que sur ce côté, c'est positif pour l'OM.
Oui, en 2013, c'était il y a près de 10 ans déjà, dans un entretien accordé à l'équipe, Vincent Labrune, qui était alors président des Olympiens, déclarait « L'exemple à suivre, c'est Dortmund. Sur le recrutement de grandes stars internationales, on ne peut pas lutter. Il y a 2 ans, Dortmund a été champion d'Allemagne alors qu'il n'avait pas les moyens du Bayern pour recruter. Est-ce que tu dirais, Sougou, après tout ce qu'on vient d'analyser, que le modèle à suivre pour l'OM, c'est peut-être finalement celui du Sporting, avec ce savoir-faire en matière de vente et d'achat, mais aussi le pari sur la formation également ?
C'est une question de travailler dans le temps, une pérennité. Et pour cela que l'OM doit s'orienter sur le modèle du Sporting. Il faut d'abord qu'il forme bien, qu'il ait un centre de formation performant et forme ses joueurs et avoir la capacité de garder ses joueurs plus longtemps que possible et les vendre quand ils veulent. Et je pense que la meilleure des choses est de prendre comme modèle le Sporting.
Voilà, sur le recrutement de grandes stars internationales, on ne peut pas lutter, disait donc Vincent Labrune il y a déjà 10 ans. Cet été, une rumeur qui a fait écho au Vélodrome et à Alvalade semble illustrer et de donner de la force à ce propos. Cette rumeur, c'est Cristiano Ronaldo.
C'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de chercher, de faire, à ma opinion, du buzz. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens qu'on a. Demander sur Cristiano Ronaldo, avec tout le respect, c'est comme si nous... C'est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Núñez, Haaland peuvent venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde. On doit être terrenal et on doit faire le football avec les moyens qu'on a.
O Ronaldo é jogador do Manchester United, nunca me foi apresentado, portanto é impossível meter o lugar à disposição. E eu também sei da responsabilidade que tenho. Outras coisas me fariam mais rapidamente meter o lugar à disposição, não o faço porque tenho um compromisso com o clube e principalmente com os meus jogadores. Portanto, isso é falso e essa hipótese nunca se pôs. Foi muito falada, mas nunca se pôs essa hipótese.
Voilà, après Pablo Longoria commentant la rumeur Cristiano Ronaldo, les déclarations de Ruben Amorim rappelant que Ronaldo est un joueur de United, qu'il n'a jamais été proposé à l'entraîneur du Sporting et que contrairement à certaines infos, il n'a jamais mis sa démission dans la balance si on venait à lui proposer sa venue. Nuno, est-ce que tu y as cru au retour de Ronaldo au Sporting?
Alors non, moi j'ai pas du tout cru. Je pense qu'on n'a pas les moyens, Pablo Longoria l'a très bien dit dans tous les cas. Je pense que au jour d'aujourd'hui, un club comme le Sporting n'a pas les moyens de faire venir Ronaldo. En tout cas, aujourd'hui. Si c'est dans un an ou deux ans, peut-être, à ce moment-là, il faudra revoir le plan, puisque forcément, on a des Rodrigo Ribeiro, on a des Chermiti qui vont éclore. Donc forcément, est-ce qu'il aura toujours sa place? Est-ce que ce sera toujours le Ronaldo qu'on a aujourd'hui dans deux ans? Peut-être pas. Mais financièrement, ce serait très compliqué pour le Sporting, dans tous les cas, de l'avoir.
Sougou, est-ce que tu y as cru ou est-ce que même tu as espéré Ronaldo à l'OM, toi, qui as joué à l'OM, justement, fan de l'OM?
Ah, moi, contrairement à Nuno, moi, j'y ai cru. J'y ai cru et j'espérais que ça allait se faire, sincèrement. Moi, je pense qu'avec la ville de Marseille, l'engouement, avoir Ronaldo à Marseille, ah, sincèrement, ça allait être top. Après, quand je commençais à recouper les morceaux, parce que lui, il disait qu'il voulait jouer la Champions League. Le maître mot, il voulait jouer la Champions League. Comme Manchester ne jouait pas la Champions League. Et là, Ronaldo veut rejouer la Champions League. Après, je me suis dit, Marseille est qualifié pour la Champions League, pourquoi pas? Et après, le montage commence à aller se faire. Je ne sais pas, cette possibilité. Mais moi, j'y ai cru. Il y a quelque chose. Et j'espérais même pour la ville, pour le Vélodrome. Imagine Ronaldo, Vélodrome. Ça serait énorme.
Oui. Alors, cela dit, tout n'est pas rose non plus du côté du Sporting ces dernières saisons, Nuno. Il y a aussi une crise institutionnelle assez longue ces dernières années au Sporting.
Oui. On a passé des années un petit peu sombres. Avant justement l'arrivée de Ruben Amorim, on a eu une instabilité vraiment vraiment grande. On a eu 6 présidents de 96 à 2013. Nous, on est sur la base de socios, comme tu sais très bien. Donc c'est des votes, c'est des assemblées générales, c'est voilà. Mais 6 présidents en moins de 20 ans, quoi. Donc c'est quand même énorme. Dont le dernier avant Valand, Bruno de Carvalho, qui avait été exclu. Justement de son poste en Assemblée Générale avec le reste de la direction, qui a été exclu après l'attaque qu'il y a eu à l'Académie. Parce qu'on a eu des supporters, on a eu une petite invasion qui a fait qu'il y a eu des problèmes. Ce qui fait qu'on a perdu énormément d'argent et la dette, elle a commencé à augmenter. Et c'est là où cette période sombre un petit peu avant Ruben Amorim, il a très bien effacé à son arrivée Valand et Ruben Amorim, parce que c'est un duo dans tous les cas, l'un marche avec l'autre et ça a bien un petit peu émerveillé un petit peu tous les Sportingistes et a remis le club dans le droit chemin.
Et bah, tu faisais référence, il y a un événement qui a cristallisé les tensions qui existaient au Sporting ces dernières saisons, l'invasion du centre d'entraînement par une quarantaine de supporters, je mets des guillemets, du club qui ont agressé des joueurs et des membres du staff. C'était en mai 2018, une violence qui n'est pas sans rappeler l'attaque dont la commanderie a été la cible 3 ans plus tard.
Pânico em Alcochete, que começou pouco depois das 5 da tarde, quando este grupo de 40 a 50 adeptos invadiu a Academia de Alcochete.
14 personnes toujours en garde à vue à Marseille après les incidents au centre d'entraînement de l'OM samedi. Certains des 300 supporters massés devant la commanderie ont pu pénétrer et commettre des dégradations à l'intérieur. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, est celui qui cristallise la colère. Lui a souligné hier à quel point les joueurs étaient choqués par ce qui s'était passé.
Alors Nuno, ce qui s'est passé à Alcochete en 2018, ça a quand même profondément marqué le Sporting et le foot portugais, d'une certaine façon. C'est une énième illustration de la violence qui existe dans le football portugais.
Tout à fait. Il y a plusieurs quotidiens qui l'avaient forcément relayé. Ça avait fait la une pendant 3 à 6 mois, ici, il me semble. Il y en a, ils disaient même que c'est l'événement le plus sombre de toute l'histoire du foot portugais. Donc depuis le début du football, dans toute l'histoire. Donc... Alors, supporter, moi je dirais pas ce mot-là par contre, mais entre de gros gros guillemets, pour moi ce n'est pas des supporters. Après, c'était une attaque qui nous a causé beaucoup de préjudice, on a eu beaucoup de mal à s'en relever. C'est à ce moment-là que Bruno Carvalho a été démis de ses fonctions. On a perdu énormément de joueurs, on a perdu des Gelson Martins, des Bastos qui ont été agressés, des Bruno Fernandes qui ont été agressés, qui a résilié son contrat, qui est revenu au club ensuite.
D'autres comme Raphaël Lyon qui sont parvenus et qui doivent dédommager le club aujourd'hui aussi, il y a eu des conséquences hein, aussi
tout à
ça. Hein,
ouais. Mm-hmm. Oui, Raphaël Lyon qui est parti à Lille gratuitement. Je ne sais pas, il a signé dans les 3 semaines, à 1 mois après l'attaque, gratuitement là-bas. Le Sporting a fait un procès, aujourd'hui il doit 20 millions, 16 millions plus indemnité, donc on est à 20 millions d'euros à peu près, et c'est ce qui bloque d'ailleurs sa prolongation au Milan AC, d'après les quotidiens. Donc on paye encore les pots cassés aujourd'hui, on a perdu énormément d'argent. Si on comptabilise les valeurs marchandes des joueurs à l'époque des faits, j'avais vu un calcul il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait perdu entre 150 et 200 millions d'euros en clause libératoire par rapport aux joueurs qui sont partis. Donc c'est énorme pour un club comme le Sporting.
Alors, au-delà de la pression des résultats sportifs, il y a aussi les résultats économiques, mais aussi la pression des supporters à prendre en compte dans des clubs comme l'OM et le Sporting, hein, Sougou.
Oui, je pense que malheureusement, il faut le déplorer aussi, cette pression des supporters. Moi, je pense que c'est l'engouement autour du club qui est énorme. C'est pour cela que parfois, il y a ces problèmes. Et sur ces clubs aussi, ils ont tout le temps besoin de gagner, tout le temps besoin de gagner. Ils ne donnent pas le temps de travail, ils ne donnent pas le temps de voir les choses en fait, dans la durée. Et c'est pour cela que parfois, il y a ce côté impatience et parfois aussi, ils y vont un peu plus fort, un peu plus loin. Ben, c'est dommage, quoi. Et c'est regrettable aussi, quoi. Si on peut faire autrement, la pression, ok, mais si c'est une pression positive, moi je suis ok, hein, parce que les grands clubs, il faut qu'ils gagnent. Hein. C'est pour cela qu'ils sont des grands clubs. Mais cette pression doit être positive, mais pas d'une manière agressive, jusqu'à ce qu'agresser les joueurs, aller dans leur domicile, là, c'est déplorable. Hein. Moi, j'ai une anecdote à vous dire. Quand je suis arrivé à Marseille, la première semaine, je suis parti au cinéma. Il y a un groupe de personnes qui est venu me voir. Ils me disent que toi, tu viens de signer, tu n'as même pas encore joué, tu vas au Sénégal. Tu vas au cinéma. Vas-y, rentre à la maison. Je ne suis même pas allé au cinéma. Je suis rentré tranquille. C'est pour vous dire. L'ambiance.
Oui, mais c'était quoi le film que tu voulais aller voir aussi?
Quand ça ne va pas. Quand j'ai oublié, c'était en 2013. Tu vois, ça date. C'était en 2013. Mais c'est une anecdote pour vous dire la situation, comment ça se passe là-bas. Quand l'équipe perd, quand tu joues à Marseille, quand l'équipe perd, tu ne peux même pas aller faire les courses. Tu restes chez toi. Hein. Tu sors seulement quand l'équipe gagne. Hein. Ben, sinon, tu es exposé. C'est difficile et c'est regrettable. Par exemple, ce que nous venons de dire là, c'est moi, j'étais au Portugal en ce moment-là et c'était regrettable aussi, quoi. Mais bon, si on peut changer les choses, là, il faut le faire. Hein.
Merci Modou Sougou d'avoir été avec nous. Merde à toi avec Amiens. Tu reviens quand tu veux, hein, Modou.
D'accord, merci beaucoup.
Merci Sougou, merci beaucoup.
Merci pour cette invitation.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci Nuno du compte Twitter, @fr_sportingcp, le compte du Sporting Club du Portugal en français. Merci Nuno d'avoir été avec nous.
Merci de l'invitation, merci à Sougou.
Merci à Jimmy Brown et à Max Savolan à la production. Merci à Sylvain Kemener à la réalisation. On se quitte avec l'un des chants préférés du supporter du Sporting, l'adaptation de Comme d'habitude, au monde sabe que, le monde sait que. Bisous, prenez soin de vous.
Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.